Chapitre 19 Cloc, cloc. Nous mîmes à peu près 3 heures pour arriver au village. Il était à plus de 3 milles dans l'intérieur des terres et la route traversait une région raboteuse. Chemin faisant, le détachement de Touwit, les 110 sauvages des canaux, se renforça d'instant en instant de petites troupes de 6 ou 7 individus qui, débouchant par différents coudes de la route, nous rejoignirent comme par hasard. Il y avait là comme un système, un tel parti pris que je ne pus m'empêcher d'éprouver de la méfiance et que je fis part de mes appréhensions au capitaine Guy. Mais il était maintenant trop tard pour revenir sur nos pas, et nous convînmes que la meilleure manière de pourvoir à notre sûreté était de montrer la plus parfaite confiance dans la loyauté de Touwit. Donc nous poursuivîmes, ayant toujours un œil ouvert sur les manœuvres des sauvages et ne leur permettant pas de diviser nos rangs par des poussées soudaines. Ayant ainsi traversé un ravin escarpé, nous parvînmes à un groupe d'habitations qu'on nous dit être le seul existant sur toute l'île. Comme nous arrivions en vue du village, le chef poussa un cri et répéta à plusieurs reprises le mot « cloc, cloc » que nous supposâmes être le nom du village, ou peut-être le nom générique appliqué à tous les villages. Les habitations étaient de l'espèce la plus misérable qu'on puisse imaginer, et, différentes en cela de celles des races les plus infimes dont notre humanité ait connaissance, elles n'étaient pas construites sur un plan uniforme. Quelques-unes, et celles-ci appartenaient aux Wampus ou Yampus, les grands personnages de l'île, consistaient en un arbre coupé à 4 pieds environ de la racine, avec une grande peau noire étalée par-dessus, qui s'épandait à plis lâches sur le sol. C'était là-dessous que nichait le sauvage. D'autres étaient faites au moyen de branches d'arbres non encore dégrossies, conservant encore leur feuillage desséché, piqué de façon à s'appuyer en faisant un angle de 45 degrés sur un banc d'argile, lequel était amoncelé, sans aucun souci de forme régulière, à une hauteur de 5 ou 6 pieds. D'autres étaient de simples trous creusés perpendiculairement en terre et recouverts de branchages semblables, que l'habitant de la cahute était obligé de repousser pour rentrer, et qu'il fallait ensuite rassembler de nouveau. Quelques-unes étaient faites avec les branches fourchues des arbres, telles quelles, les branches supérieures étant entaillées à moitié et retombant sur les inférieures, de manière à former un abri plus épais contre le mauvais temps. Les plus nombreuses consistaient en de petites cavernes peu profondes dont était, pour ainsi dire, égratignée la surface d'une paroi de pierre noire, tombant à pic et ressemblant fort à de la terre à foulon, qui bordait 3 des côtés du village. À l'entrée de chacune de ces cavernes grossières se trouvait un petit quartier de roches que l'habitant du lieu plaçait soigneusement à l'ouverture chaque fois qu'il quittait sa niche. Dans quel but, je ne pus pas m'en rendre compte, car la pierre n'était jamais d'une grosseur suffisante pour boucher plus d'un tiers du passage. Ce village, si toutefois cela méritait un pareil nom, était situé dans une vallée d'une certaine profondeur, et l'on ne pouvait y arriver que par le sud, la muraille ardue dont j'ai parlé fermant l'accès dans toute autre direction. À travers le milieu de la vallée clapotait un courant d'eau de la même apparence magique que celle déjà décrite. Nous aperçûmes autour des habitations quelques étranges animaux, qui semblaient tous parfaitement domestiqués. Les plus gros rappelaient notre cochon vulgaire, tant par la structure du corps que par le groin. La queue toutefois était touffue et les jambes grêles comme celles de l'antilope. La démarche de la bête était indécise et gauche, et nous ne la vîmes jamais essayant de courir. nous remarquâmes aussi quelques animaux d'une physionomie analogue, mais plus longs de corps et recouverts d'une laine noire. Il y avait une grande variété de volailles domestiquées qui se promenaient aux alentours et qui semblaient constituer la principale nourriture des indigènes. À notre grand étonnement, nous aperçûmes parmi les oiseaux des albatros noirs complètement apprivoisés qui allaient périodiquement en mer chercher leur nourriture, revenant toujours au village comme à leur logis et se servant seulement de la côte sud qui était à proximité comme de lieu d'incubation. Là, comme d'habitude, ils étaient associés avec leurs amis les pingouins, mais ces derniers ne les suivaient jamais jusqu'aux habitations des sauvages. Parmi les autres oiseaux apprivoisés, il y avait des canards, qui ne différaient pas beaucoup du canvasback ou Anas vallisneria de notre pays, des boubis noirs, et un gros oiseau qui ressemblait assez au busard, mais qui n'était pas carnivore. Le poisson semblait en grande abondance. Nous vîmes, pendant notre excursion, une quantité considérable de saumons secs, de morues, de dauphins bleus, de maquereaux, de totogues, de raies, de congres, d'éléphants de mer, de mulets, de sols, de scars ou perroquets de mer, de litter jackets, de rougets, de merluches, de carlets, de paracutas et une foule d'autres espèces. Nous remarquâmes qu'elles ressemblaient, pour la plupart, à celles qu'on trouve dans les parages de l'archipel de Lord Auckland, à 51 degrés de latitude sud. La tortue Galapagos était aussi très abondante. Nous ne vîmes que très peu d'animaux sauvages, aucun de grosses proportions, aucun non plus qui nous fût connu. Un ou deux serpents d'un aspect formidable traversèrent notre chemin, mais les naturels n'y firent pas grande attention et nous en conclûmes qu'ils n'étaient pas venimeux. Comme nous approchions du village avec Tuwit et sa bande, une immense populace se précipita à notre rencontre, poussant de grands cris parmi lesquels nous distinguions les éternels « Anamo, mo » et « Lama, lama ». Nous fûmes très étonnés de voir que ces nouveaux arrivants étaient, à une ou deux exceptions près, entièrement nus, les peaux à fourrure n'étant à l'usage que des hommes des canaux. Toutes les armes du pays semblaient aussi en la possession de ces derniers, car nous n'en voyions pas une seule entre les mains des habitants du village. Il y avait aussi une multitude de femmes et d'enfants, celles-ci ne manquant pas absolument de ce qu'on peut appeler beauté personnelle. Elles étaient droites, grandes, bien faites et douées d'une grâce et d'une liberté d'allure qu'on ne trouve pas dans une société civilisée. Mais leurs lèvres, comme celles des hommes, étaient épaisses et massives, à ce point que même en riant, elles ne découvraient jamais les dents. Leur chevelure était d'une nature plus fine que celle des hommes. Parmi tous ces villageois nus, on pouvait bien trouver 10 ou 12 hommes habillés de peau, comme la bande de Tuwit, et armés de lances et de lourdes massues. Ils paraissaient avoir une grande influence sur les autres, et on ne leur parlait jamais sans les honorer du titre de Wampu. C'étaient les mêmes hommes qui habitaient les fameux palais de peau noire. L'habitation de Tuwit était située au centre du village et beaucoup plus grande et un peu mieux construite que les autres de même espèce. L'arbre qui en formait le support avait été coupé à une distance de 12 pieds environ de la racine et au-dessous du point de la coupe, quelques branches avaient été laissées qui servaient à étaler la toiture et l'empêchaient ainsi de battre contre le tronc. Cette toiture, qui consistait en 4 grandes peaux reliées entre elles par des chevilles de bois, était assujettie par le bas avec de petits pieux qui la traversaient et s'enfonçaient dans la terre. Le sol était jonché d'une énorme quantité de feuilles sèches qui remplissaient l'office de tapis. Nous fûmes conduits à cette hutte en grande solennité, et derrière nous, s'amassa une foule de naturels autant qu'il en put tenir. Too Wit s'assit sur les feuilles et nous engagea par signe à suivre son exemple. Nous obéîmes et nous nous trouvâmes alors dans une situation singulièrement incommode, si ce n'est même critique. Nous étions assis par terre au nombre de 12, avec les sauvages au nombre de 40, accroupis sur leurs jarrets et nous serrant de si près que, s'il était survenu quelque désordre, il nous eût été impossible de faire usage de nos armes ou même de nous dresser sur nos pieds. La cohue n'était pas seulement en dedans de la tente, mais aussi en dehors, où se foulait probablement toute la population de l'île, que les efforts et les vociférations de Too Wit empêchaient seuls de nous écraser sous ses pieds. Notre principale sécurité était dans la présence de Too Wit parmi nous. Et voyant que c'était encore la meilleure chance de nous tirer d'affaire, nous résolûmes de le serrer de près et de ne pas le lâcher, décidés à le sacrifier immédiatement à la première manifestation hostile. Après quelques tumultes, il fut possible d'obtenir un peu de silence. Et le chef nous fit une harangue d'une belle longueur, qui ressemblait fort à celle qui nous avait été adressée des canaux, sauf que les Anamomoho s'y trouvaient un petit peu plus vigoureusement accentués que les Lama-Lama. Nous écoutâmes ce discours dans un profond silence jusqu'à la péroraison. Le capitaine Guy y répondit en assurant le chef de son amitié et de son éternelle bienveillance. Et il conclut sa réplique en lui faisant cadeau de quelques chapelets ou colliers de verroterie bleue et d'un couteau. En recevant les colliers, le monarque, à notre grand étonnement, releva le nez avec une certaine expression de dédain. Mais le couteau lui causa une satisfaction indescriptible et il commanda immédiatement le dîner. Ce repas fut passé dans la tente par-dessus les têtes des assistants et il consistait en entrailles palpitantes de quelque animal inconnu, probablement d'un de ces cochons à jambes grêles que nous avions remarqués en approchant du village. Voyant que nous ne savions comment nous y prendre, il commença pour nous montrer l'exemple, à engloutir la séduisante nourriture, yard par yard, si bien qu'à la fin, il nous fut positivement impossible de supporter plus longtemps un pareil spectacle, et que nous laissâmes voir des hauts le cœur et de telles rébellions stomachiques que Sa Majesté en éprouva un étonnement presque égal à celui que lui avaient causé les miroirs. Nous refusâmes, malgré tout, de partager les merveilles culinaires qui nous étaient présentées. Et nous nous efforçâmes de lui faire comprendre que nous n'avions aucun appétit, puisque nous venions tout justement d'achever un solide déjeuner. Quand le monarque eut fini son régal, nous commençâmes à lui faire subir une espèce d'interrogatoire, de la façon la plus ingénieuse que nous pûmes imaginer, dans le but de découvrir quels étaient les principaux produits du pays et s'il y en avait quelques-uns dont nous pussions tirer profit. À la longue, il parut avoir quelque idée de ce que nous voulions dire et il nous offrit de nous accompagner jusqu'à un certain endroit de la côte où nous devions, nous assura-t-il, et il désignait en même temps un échantillon de l'animal, trouver la biche de mer en grande abondance. Nous saisîmes avec bonheur cette occasion d'échapper à l'oppression de la foule et nous signifiâmes notre impatience de partir. Nous quittâmes donc la tente et, accompagnés par toute la population du village, nous suivîmes le chef à l'extrémité sud-est de l'île, pas très loin de la baie où notre navire était mouillé. Nous attendîmes là 1 heure environ, jusqu'à ce que les 4 canots fussent ramenés par quelques-uns des sauvages jusqu'au lieu de notre station. Tout notre détachement s'embarqua dans l'un de ces canots et nous fûmes conduits à la pagaie le long du récif dont j'ai parlé, puis vers un autre situé un peu plus au large, où nous vîmes une quantité de biches de mer plus abondante que n'en avait jamais vu le plus vieux de nos marins dans les archipels des latitudes inférieures si renommés pour cet article de commerce. Nous restâmes le long de ces récifs assez longtemps pour nous convaincre que nous en aurions facilement chargé une douzaine de navires s'il eût été nécessaire. Et puis nous remontâmes à bord de la goélette et nous prîmes congé de tout huit, après lui avoir fait promettre qu'il nous apporterait, dans le délai de 24 heures, autant de canards canoas-bac et de tortues galapagos que ces canots en pourraient contenir. Pendant toute cette aventure, nous ne vîmes dans la conduite des naturels rien de propre à éveiller nos soupçons, sauf la singulière manière systématique dont ils avaient grossi leur bande pendant notre marche de la goélette au village.